Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. On a beaucoup parlé de ce qui était essentiel et de ce qui ne l'était pas ces dernières semaines. Ainsi avons-nous appris que les librairies étaient inessentielles, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, mais pas très bien, vous voyez comment ça se passe. Et fort heureusement, j'ai reçu le livre que je n'attendais plus et qui vient tout remettre d'équerre, un peu comme une levée de confinement où tout à coup l'inessentiel a enfin le droit d'exister. Un dictionnaire de l'inutile. Ah, pas n'importe lequel, un dictionnaire amoureux de l'inutile, signé François Morel et son fils Valentin. Et ils sont sur ce plateau ce soir, François Morel et Valentin Morel. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir tous les deux à l'occasion de la parution de ce dictionnaire de l'inutile, de l'inessentiel, de ce qui est superfétatoire, superflu, bref, qui n'a aucun intérêt et qui s'appelle la littérature. Alors évidemment, en compulsant cet épais volume passionnant, j'ai trouvé dans trois autres romans un peu la même chose, de l'inessentiel et du superflu. Des romans qui mettent la fantaisie et le loufoque dans l'ordinaire, qui célèbrent le quiproquo et qui en font même parfois une attitude philosophique, mais oui, face aux insultes de la vie quotidienne. C'est le cas notamment de Broadway, signé Fabrice Caro. Bonsoir Fabrice Caro.
Ça.
Fabrice Caro ou Fab Caro?
Comme vous voulez, comme c'est... ça vous va le mieux. Le postulat, c'est que Fab Caro, c'est les BD, puis Fabrice Caro, c'est le roman. Mais...
on va en parler, des BD, Zaï, 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 la BD culte, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et puis donc votre nouveau roman, Broadway. Il y a des pages chez Fab Caro sur l'inutile qu'à mon avis, la famille Morel risque de vous piquer pour une future édition de leur chef-d'œuvre. On va les relever dans un instant, ces pages, d'ailleurs. Alors, le roman de Fabrice Caro questionne l'inutile, mais aussi la réalité. Quelle est-elle, notre réalité? Eh bien, figurez-vous que le prix Goncourt a eu la bonne idée de couronner cette année l'incroyable réponse à cette pénétrante question. Hervé Le Tellier publie un roman excellent qui s'intitule « L'anomalie », addictif comme une série et qui joue avec la littérature pour le plus grand plaisir des lecteurs. Bonsoir Hervé Le Tellier. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Prix Goncourt, donc, ça fait plaisir, ça, dites-moi, cette reconnaissance.
Ça arrive une fois dans une vie d'auteur, en théorie, si... sauf si on travaille sous pseudo après.
Mais oui.
Oui, ça fait forcément...
Je vous soupçonne d'avoir d'ailleurs déjà envisagé le second prix Goncourt sous pseudo.
Non, j'ai envisagé le travail sous pseudo. Le second prix Goncourt, on ne sait pas comment on obtient un prix Goncourt. C'est une sorte de surprise divine le jour où on l'œuvre.
Voilà. On verra d'ailleurs qui est derrière tout cela, parce qu'il y a quelques pistes dans votre roman qui pourraient suggérer ce que nous faisons sur cette planète et qui nous sommes réellement, à savoir peut-être que les jurés Goncourt font partie des personnages mystérieux de votre roman, Hervé Le Tellier. Alors la lecture de votre livre, L'Anomalie, conduit directement à celle du cœur synthétique, en réalité, le nouveau roman de Chloé Delhomme et qui raconte sous forme satirique la crise existentielle dans laquelle se trouve plongée une femme de 46 ans, âge qui, nous allons le découvrir, constitue un puissant facteur de décote à la Bourse des Sentiments. Bonsoir Chloé Delhomme.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour un livre qui reprend, j'allais dire, les thèmes que vous avez déjà traités dans beaucoup de vos romans précédents et qui les pousse, vous poussez le curseur de ce loufoque. Peut-être faut-il rire pour ne pas pleurer. Ça fait partie aussi de vos postulats d'écriture. Roman couronné par le prix Médicis et c'est bien mérité, d'autant que vous n'allez pas de main morte hein, avec le milieu de l'édition.
Bah, on fait des blagues.
Je voudrais qu'on commence, si vous voulez bien, cette émission par l'inutile. À une époque où tout est rendement, efficacité, utilité, où tout doit servir à quelque chose, sous peine d'être estampillé non essentiel par nos autorités souveraines, voici donc une bulle d'oxygène, légère, fantaisiste, loufoque, farfelue, en un mot pétrie de cet humour, un rien poétique et farceur auquel François Morel nous a habitués. Et nous découvrons par la même occasion que les joies de la paternité, chères à Fabrice Caro, se multiplient lorsque votre rejeton, par exemple, partage le même sens de l'humour que vous. Ainsi, Valentin Morel, fils du précédent, a contribué, et pas qu'un peu, à l'élaboration de ce dictionnaire qui recense tout ce qui est inutile dans la vie, de A à Z, c'est-à-dire de l'Académie française, ça y est, ça commence, à Zou, le fameux « Allez, Zou ». hein, qui est à la fois simple, mélancolique, et puis qui clôt ce livre comme une épitaphe, achète une vie. Mais enfin, là, je m'égare. Revenons à l'essentiel, c'est-à-dire l'inutile. Lequel des deux a eu cette idée, à la fois saugrenue et puissante, de consacrer un dictionnaire de l'inutile qui, à l'inutile, ce qui va contrarier, mais avantageusement, les hommes politiques, les autres comptables, enfin, et tous les fâcheux.
C'est François qui a eu l'idée, c'est-à-dire qu'au départ...
Après, je l'ai fait bosser.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, au départ, les gens de chez Plon lui ont proposé de faire un dictionnaire amoureux sur le sujet.
Les gens de chez Plon, je crois que c'est surtout Jean-Louis Chifflet, connais depuis une vingtaine d'années, et qui régulièrement, tous les 15 jours, m'appelle pour me proposer d'écrire un livre. Je dis, bah, non, j'ai pas le temps. Et puis, il avait eu une idée formidable, pensait-il, c'était le dictionnaire amoureux de la gentillesse. J'ai dit, mon pauvre Jean-Loup, qui va acheter un dictionnaire amoureux de la gentillesse avant? Autant le dictionnaire amoureux de la méchanceté peut avoir un intérêt, mais le dictionnaire amoureux de la gentillesse, je pense que ça va intéresser personne. Et puis, je ne sais pas pourquoi, dans la conversation, je lui ai dit, pourquoi plutôt pas faire un dictionnaire amoureux de l'inutile, ouais. Et puis, en le disant, je me suis dit, peut-être que c'est effectivement une bonne idée. Parce qu'on nous demande tellement d'être efficace, rentable. Et si les vrais moments de bonheur de l'existence, ce n'étaient pas les moments, justement, où ça ne sert à rien.
Mais à quel moment avez-vous eu l'envie ou l'idée d'y associer votre fils, Valentin?
Parce que je me disais, écrire un dictionnaire pour moi tout seul, c'est trop. Je vais m'ennuyer.
Ah, c'est vraiment un truc de cossard, alors?
Ah ouais, ouais. Et puis, c'était aussi... pas que de cossard, aussi un peu... moi je suis pas fait pour écrire un dictionnaire, moi c'est pas mon
alors
truc.
Que moi.
Alors que non, mais je me suis dit,
alors que vous, Valentin.
Un dialogue, on peut le faire à deux. Voilà.
Est-ce que vous partagez avec votre père ce même regard sur les choses de la vie, cette façon de considérer que justement on nous vend de la rentabilité, du rendement, et qu'après tout, de temps à autre, des choses inutiles, c'est quand même un petit peu utile au bonheur ou à la joie?
Je pense qu'on partage une forme de regard, parce que de toute façon, j'ai grandi en lisant ce qu'il faisait, donc je me suis construit en rapport avec mon père, évidemment. Après, j'ai du mal à dire...
Vous avez remarqué que j'ai mis un divan, hein. Vous pouvez vous allonger.
Bien sûr.
Racontez-nous votre enfance, Valentin.
Non, sûrement pas. Non, mais je pense que oui, on doit avoir des choses en commun. J'ai du mal un peu à savoir, parce que... c'est difficile de savoir ce qu'on fait, d'être objectif sur ce qu'on a écrit.
Aussi, en fait, quand on a commencé le livre, on était obligés l'un et l'autre d'aller jusqu'au bout.
C'est une belle histoire de paternité et de filiation, finalement.
C'est très mignon.
Alors, vous allez me répondre, inutile de préciser, mais enfin, qui a écrit quoi?
Vous voulez qu'on liste tout, qu'on vous dit?
Vous allez vous ennuyer. Je sais pas.
Non, mais c'est-à-dire que ce que j'aimerais savoir, c'est quel est l'inutile de l'un et de l'autre? Parce qu'évidemment, un peigne pour Valentin, c'est quand même moins utile.
Ouais, ça, c'est vrai.
A priori.
Pour la barbe, c'est quand même.
Peut-être, oui. Oui. Ouais.
Je sais pas.
Il y avait de toute façon une sorte de jeu dès le départ. C'est-à-dire, on peut défendre des choses à partir du moment où on axe une entrée. On peut décider de défendre un point de vue qui est complètement... qui n'est pas du tout le nôtre, mais tant qu'on... Par exemple, il y a un des articles qui est sur l'onanisme.
J'ai vu que l'onanisme et la sexualité étaient très présentes, oui, effectivement, dans ce dictionnaire.
Ça, donc, c'est lui.
Ça, c'est que moi, c'est un peu obsédé.
Une fois.
Ouais. Donc, on défend dans le dictionnaire l'idée que l'onanisme est inutile. Dans la vraie vie, je ne le défendrai pas avec la même vigueur.
C'est le dire. C'est donc un dictionnaire aussi de la mauvaise foi.
Ça peut l'être, ouais.
Ouais. Jusqu'où la mauvaise foi est-elle nécessaire pour créer ce décalage qui apporte le sourire ou le rire franc?
Nous, ce qui nous intéressait, c'est que les gens se feuillettent le bouquin et se disent ouais, « Giscard, pourquoi Giscard, il serait inutile ?» Effectivement, Giscard n'est pas... plus inutile qu'un autre, oui. pas moins. Mais en fait, c'est pour parler de la coiffure, justement, de Valéry Giscard d'Estaing et sa façon de ramener les cheveux sur le front. Strasbourg, par exemple. A priori, on a mis Strasbourg comme inutile. Mmh. Les gens
ils vont être contents, Strasbourg.
Ouais. En fait, non, c'est un monsieur qui a décidé d'aller dans tous les Strasbourg du monde. Parce qu'il y a beaucoup... Ça, vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de Strasbourg dans le monde. Et un monsieur qui a dit, moi, dans ma vie, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir tous les Strasbourg qui existent partout. Ça, c'est beau.
C'est fascinant.
C'est poétique.
Ah, très. Alors, comme c'est une émission littéraire, moi, je me suis penché sur ce qui était inutile en littérature. Et là, vous avez raison de souligner qu'il y a quelque chose quand même, eh oui, dont on nous affuble, c'est insupportable, il faudrait que les éditeurs arrêtent avec ça. Et Chloé Delhomme en a encore signé une excellente il n'y a pas très longtemps, c'est la préface. Pourquoi la préface, François et Valentin, vous semble-t-elle inutile ?
Moi, on m'en demande souvent, donc c'était pour qu'on ne m'en demande plus que j'ai fait cet article d'abord. Et puis parce que souvent, ça ne sert pas à grand-chose quand même. Des fois, il y a des gens plus connus qui signent des... Pour dire, regardez comme c'est bien. Mais en général, il suffit de regarder deux pages d'un livre. On sait déjà si on a envie de continuer ou pas. Donc une préface, c'est rarement utile. Sauf si c'est un très beau texte et que c'est beau en soi, quoi.
Et pourquoi on fait des préfaces alors si c'est, maintenant que c'est inutile, Chloé ?
Ça me questionne. Me voilà toute perdue maintenant, moi qui en ai fait une effectivement récemment.
Il y a la parenthèse aussi. Hein. La parenthèse, ça c'est le truc le plus inutile. Mais là, alors là, c'est extraordinaire. Le chapitre est à, il faudrait le lire en intégralité parce que finalement il y a un troisième auteur. Enfin, vous avez un nègre, votre fils qui bosse à votre place. Et puis tout à coup, vous dites non, mais la parenthèse, on va demander aux spécialistes de la parenthèse dans la littérature française que vous connaissez. C'est Philippe Génada. Alors Philippe Génada, très bon écrivain. Il a cette particularité d'user et même d'abuser de la parenthèse, donc vous lui demandez d'expliquer, ça donne un texte, mais loufoque à souhait, et vous dites, bah, finalement, comme on a besoin de signes pour remplir le dictionnaire, est-ce qu'on est autorisé à reproduire tous les quatre pages, quoi.
Et il accepte. Mmh. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que dans les bouquins de Philippe Génada, par exemple, il fait des enquêtes très poussées sur l'histoire d'Arnaud, par exemple, dans la Serpe, et s'il y avait seulement l'histoire de l'enquête, ça serait moins intéressant que s'il n'y avait pas toutes ces digressions qui sont formidables sur le restaurant chinois où il va manger en Angoulême, sa femme, son fils, etc., sa voiture qui a un voyant qui ne marche pas, etc. Moi, ça m'a passionné, ça m'a fait énormément rire. Et je me disais, dans les bouquins de Génada, la parenthèse, ça pourrait être considéré comme inutile. Moi, évidemment, c'est essentiel dans son écriture.
Ouais. Mais alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de parenthèses chez vous, Hervé Le Tellier, mais une chose...
Je suis des tirets, moi.
Oui, vous mettez des tirets, voilà.
C'est une autre forme de parenthèse aplatie.
Et des tirets qui permettent de digresser.
Oui.
Évidemment. Mais est-ce que derrière cet éloge de la parenthèse, c'est peut-être pas aussi une façon de remettre en question l'idée qu'on écrit uniquement pour délivrer un message ? Finalement, ce qui est intéressant, ce qu'on aime le plus dans la littérature, c'est les digressions de l'auteur. C'est le moment où vous sortez de votre plan, non ?
J'ai un roman fétiche, il s'appelle Mezzanine, qui est un roman de Nicholson Baker. Alors là, ce n'est pas des parenthèses ni des tirets, ce sont des notes de bas de page. Dans la mezzanine de Nicholson Baker, le texte est extrêmement simple. C'est l'histoire d'un homme qui monte sur un escalator, qui casse son lacet et qui ne sait pas très bien quoi faire jusqu'au moment où il arrive en haut de l'escalator. Et c'est toute l'histoire. Et en fait, l'intégralité de la narration se passe dans les notes de bas de page. Et moi, je suis très admiratif de ce genre de forme parce que...
Il y avait un bouquin de Vajman aussi où il n'y avait que les notes.
Il n'y avait que les notes, oui.
Ça, c'était intéressant.
Il n'y avait que les notes.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous amuse, vous, Hervé Le Tellier ? Ça, c'est votre spécialité, d'aller débusquer comme ça le farfelu chez les écrivains.
Oui, pas forcément, mais moi, ce que j'aime quand j'écris un livre, c'est que ça établisse une complicité avec mon lecteur. Et justement, la parenthèse, la digression, l'appel de notes, ça établit forcément une complicité puisqu'on le fait sortir du texte. À un moment donné, on lui dit, tiens, là, tu vois que tu étais dans un roman puisque tu dois lire une note de bas de page. J'avais adoré un film, je ne sais plus du tout quel film c'était. Mais
ça commence bien, ça.
Non, mais vous allez voir, l'idée est géniale parce qu'elle elle peut s'imaginer dans n'importe quel film. C'est à un moment donné, une dame court avec un homme et elle est en haut talon. Et ça, parce que c'est une sorte de film d'action, elle est en haut talon. Et au bout d'un moment, elle se tourne vers l'homme avec qui elle court, qui n'arrête pas de lui reprocher de ne pas courir assez vite. Et elle lui dit, depuis le début du film, je cours avec des hauts talons. Et je trouve que c'est absolument invraisemblable qu'on fasse sortir le spectateur du film en lui disant qu'il est dans un film. Et ça arrive très rarement. Donc dans les romans, il y a ce phénomène-là. Je pense que la parenthèse sert à ça, sert à rappeler qu'on est dans une forme romanesque. Sinon, son utilité est relative, mais c'est les digressions qui font la force.
Vous revenez à l'utilité.
Oui, il y a toujours une vocation à une présence de parenthèse. Ce n'est pas forcément utile, mais c'est une vocation.
Utile, pas utile, il n'y a pas que la littérature, il y a les objets du quotidien. Et là, la famille Morel excelle dans les objets du quotidien et je n'ai pas résisté au plaisir d'en choisir quelques-uns que je vous soumets. Par exemple, ceci. Qu'est-ce que le yo-yo vient faire dans un dictionnaire de l'inutile? Tenez, faites-nous une démonstration, François.
Bien sûr. Moi, je suis un peu champion du monde du...
Vous êtes champion du monde de yo-yo.
Yo-yo, oui.
Et alors?
Mais c'est... Là en général, je... Voilà, je joue avec mon matériel, hein, je suis désolé. Mais...
Voilà, c'est donc effectivement totalement inutile. C'est réussi.
Voilà, vous avez autre chose ou pas? Qu'est-ce voilà. que vous avez...
Il nous a cassé le yo-yo.
Un bel bouquet.
Et pourquoi le yo-yo, alors, est-il inutile?
Vous pensez qu'on n'aurait pas dû le mettre?
Non, 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 je voulais une explication.
Je sais pas, moi.
Objet, alors là, je m'inscris en faux.
Ouais.
Prétendument inutile chez Morel, la boule à neige. Ah. Alors, on apprend que jusqu'à 1878, les gens ont vécu, les pauvres,
sans...
dans l'ignorance totale de la boule à neige.
Ouais.
Ça a dû être très, très dur.
Bah, ouais.
Pourquoi la boule à neige?
Ben, je sais pas, vous me posez des questions, moi je...
Vous êtes sûr que vous avez écrit votre bouquin?
Ah bah oui. Bah ben, je sais pas, moi je trouve ça intéressant d'écrire quelques articles comme ça sur la boule à neige, parce que il y a plein de livres en fait qui n'évoquent pas du tout, même moi bon, j'ai beaucoup aimé, hein, par exemple oui, le prix Goncourt, mais je trouve sur la boule à neige, je cherchais, je dis rien. Mais ben, je dis bon bah ben, voilà, c'est tout. Si la caméra de Gilbert Larriaga peut faire des gros plans sur la boule à neige. On passerait une heure comme ça. Il y a d'autres questions à poser ou...
Ah, moi j'en ai plein. Si les réponses sont du même acabit. Oui. Alors, cela dit, j'ai trouvé ceci également, la flûte à bec.
Ouais.
La flûte à bec, François Morel. J'imagine que c'est plutôt vous, non?
La flûte à bec, c'est toi, ça.
La flûte à bec, c'est moi.
Tiens, je t'accompagne alors pendant.
Bah, j'ai essayé. Bah, en fait, c'est pas un cadeau que vous nous faites. Parce que...
Oui.
Là, les gens vont partir sur le tien. Hein.
Oui, mais Valentin va nous raconter sur fond de musique classique jouée par François Morel.
Bien sûr. Non, bah, c'était plus...
Enfin, musique classique ou autre, parce que vous dites que la flûte à bec, ça a un avantage, c'est qu'on peut faire le curé de Camaret aussi bien que Handel.
Si, ça se joue avec le nez aussi.
Ah bon?
Bah, tu piques les chutes, bah, tu piques les blagues.
Et on est en train de vraiment montrer ce qui est essentiel et inessentiel dans cette émission ce soir. C'est très important. Ah oui, alors ça c'est très 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 bien. Ça, voilà, voilà. Vous vous souvenez de ça? Je déroule et qu'est-ce que je vois? Alors non, ça, le carambar, je le donne à Hervé. C'est le prix Goncourt, voilà.
Bravo, de réussite, franchement. Bravo. Bah,
on s'entraîne, hein, qu'est-ce que vous croyez?
Blague.
Et il y a, voilà, les blagues carambar du style « Que se fait un schtroumpf quand il tombe ?»
Un bleu. Bah moi, je travaille dans l'humour depuis 30 ans, hein, attention. Hein. Alors là, j'ai agrandi la maison, c'est Morel et fils. Bon, il voilà.
Faut quand même aimer l'humour consternant.
Ah. Oui, on la partage.
Il faut bien le dire. Alors, il y a plein d'autres choses dans votre dictionnaire de l'inutile. Il y a la moustache de Jean Rochefort. Pourquoi celle de Jean Rochefort est-elle inutile plus que celle, je ne sais pas moi, de Georges Brassens, José Bové ou alors Jean Ferrat?
Il n'y a pas de raison.
Ah,
c'est simplement, c'était pour mettre en valeur un poète qui s'appelle Georges-Philippe Taladiar et qui a écrit un poème sur la moustache de Jean Rochefort. « J'aime les trous dans le gruyère, le moisi dans le roquefort, le coulant dans le camembert. » Mais la moustache de Jean Rochefort. J'aime les copains qui me ramènent chez moi quand je suis ivre mort, qui paient mes ardoises chez Germaine, mais la moustache de Jean Rochefort. J'aime monter sur une échelle chez mon voisin et sans remords, voler ses pommes les plus belles, mais la moustache de Jean Rochefort. J'aime entre Nantes et Montaigu l'ornier d'une belle qui dort, le beau bas du dos bien dodu, mais la moustache de Jean Rochefort. Accent circonflexe royal sur le sourire d'un milord, chevauchant altier son cheval, je ne l'aime pas, je l'adore. C'est la première fois peut-être qu'à la télévision, on lit du Georges-Philippe Taladiar.
Ouais. Finalement, elle n'est pas si inutile, cette émission. Et le dictionnaire de l'inutile n'est pas non plus totalement inutile. Tiens, puisque vous êtes en lecture, j'aimerais bien que vous nous fassiez la lecture à deux voix de cette entrée que je trouve très pertinente. Records, au pluriel. Les records.
Les records. Alors, attendez.
411.
On ne peut pas signaler tous les concours idiots.
Ça pourrait faire l'objet d'un dictionnaire spécial.
Ça existe déjà. Oui, ça s'appelle le livre Guinness des records.
Ah d'accord.
Un Américain a résolu 3 Rubik's Cubes sous l'eau en 1 minute.
Pas mal.
Une Américaine a remporté la 22e édition du Wing Bowl à Philadelphie en ingérant 363 ailes de poulet en une demi-heure.
Admirable.
Un Japonais a battu le record du 100 mètres à quatre pattes.
Phénoménal.
Mieux encore, un Indien a battu le record du monde de vitesse de frappe sur un clavier avec son nez.
Vraiment ?
Un Pakistanais a pulvérisé le record du monde de cassage de noix.
Avec ?
La tête. 155 en une minute.
Ouais.
Le record mondial du plus gros gâteau est nicaraguayen. Il a nécessité 60 000 œufs et 65 sacs de farine. Je continue.
Comme vous voulez.
Une Polonaise prénommée Ania a le projet de coucher avec 100 000 hommes afin d'entrer dans le Guinness.
Passionnant.
Le plus long boudin à ce jour est espagnol, 187 mètres avant cuisson, 175 mètres après. Vous imaginez la taille de la casserole.
Plutôt mal.
D'autres records ?
Non merci, ça va aller.
Voilà.
Évidemment, tout est vrai.
Ah bah oui.
Ce qui est amusant, c'est les passerelles, vous savez, d'un livre à l'autre. Et alors, en lisant le livre de Fabrice Caro, Broadway, page 125, je relève cette question sous forme de cri de révolte. Pourquoi l'utile ? Pourquoi l'approprier ? Pourquoi tout doit-il être cohérent quand la vie elle-même ne l'est pas pour dessous ? Ça, c'est pour les morels.
La passerelle est évidente. on s'évertue à faire que des choses qui ont sens, en fait. C'est dommage, je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de choses, du coup.
Votre personnage, on en parlera tout à l'heure, lui, c'est un rêveur qui a un petit peu de mal dans la société de l'utile, dans la société où tout doit être rentable, où tout doit être expliqué.
Ouais, il a du mal avec les codes, il a du mal à gérer... c'est ça. Lui, alors, il se réfugie dans l'inutile, pour le coup. Il a du mal avec le réel, alors il se fantasme ailleurs, il se fantasme...
Et alors, sur l'utile, je dis aussi ça, page 86. Alors ça, c'est une page qui ferait un appréciable codici dans la réédition de votre livre. Vous pourrez vraiment l'utiliser. Un père veut parler à son fils, donc il entre dans la chambre du rejeton qu'il trouve évidemment plongé dans on ne sait quoi sur son téléphone portable. Le père furette, reste un petit peu. 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Commentaire de Fab Caro avant qu'il ressorte. Les 10 minutes les plus inutiles de l'histoire de l'humanité. En 10 minutes, Stendhal avait déjà écrit une page de la Chartreuse de Parme.
Oui, c'est ça. Il est censé jouer son rôle de père. Donc, il est censé aller un petit peu faire la morale à son fils, mais il n'y arrive pas, parce que ce n'est pas un super père. Donc, il tourne un petit peu en rond pendant 10 minutes, puis il ressort comme il est rentré. Mais en même temps, c'est joli. Moi, l'inutile, je trouve ça joli, souvent.
Oui, c'est joli.
Puis ça ramène à l'enfance. Il y a beaucoup de choses qui ramènent à l'enfance dans le dico.
Qu'est-ce qui vous inspire, ce dictionnaire de l'inutile, Chloé ?
Oh, j'ai trouvé ça vraiment choupinou.
Choupinou.
Oui, et puis le fait qu'il l'ait fait en A2, je trouve l'histoire assez jolie. Et après, à feuilleter, c'est très agréable. Je pense que c'est un excellent cadeau de Noël.
Mais l'inutile, ça ne vous parle pas plus que ça ?
L'inutile, je suis pour... je fais de la littérature, donc... Souvent, la poésie a quelque chose qui, dans ce monde actuel, paraît très, très inutile. Donc, je suis pour qu'on préserve l'inutilité.
Hervé Le Tellier.
Moi, j'ai trouvé que ça avait des accents de vialate. Oh. C'est gentil, hein ?
C'est plutôt gentil.
Voilà, je trouvais que ça me faisait penser à des chroniques de la montagne, de vialate. En particulier, j'en ai noté plusieurs, mais l'âge, par exemple, l'entrée âge. Il y a, je ne sais pas si on peut le trouver, mais il y a un petit paragraphe qui commence par l'homme.
Ah oui.
Et ce paragraphe sur l'homme fait tellement penser à l'homme est un être avec une gabardine ou une...
Qui attend le bus
21 à la station glaciaire. Ça fait tellement penser à ça. Donc il y a un style un peu vialate que moi je suis absolument fanatique. Donc j'ai trouvé ça très joli.
Le dictionnaire amoureux de l'inutile, François et Valentin Morel, avec des illustrations de Christine Morel. C'est toute la famille, en fait, qui fait travailler, vous savez bien.
Ouais, ouais. Ouais,
c'est chez Plon, évidemment. Alors, de l'inutile à l'anomalie, il n'y a qu'un pas que nous franchirons fermement. Voici un roman virtuose, signé Hervé Le Tellier. Prix Goncourt, donc, chez Gallimard. Je suis très content que vous ayez reçu le Goncourt pour ce livre en particulier. Je rappelle, vous êtes... mathématicien de formation, vous avez aussi...
Oui, j'étais un mauvais mathématicien.
Oui, ça, c'est ce qu'on dit quand
Non, c'est ce qu'on dit quand on sait qu'on est un mauvais mathématicien. Ouais. C'était vraiment mon cas.
Mais alors, qu'est-ce qu'un bon écrivain, du coup ?
C'est beaucoup plus simple d'être un mauvais écrivain sans que ça se sache. Et alors qu'un mauvais mathématicien, personne n'en connaît. Je veux dire, ceux qui ont traversé le siècle sont tous connus comme étant des bons mathématiciens. Il y a des mauvais écrivains qui traversent le siècle aussi. Donc, il vaut mieux être un écrivain plutôt qu'un mathématicien, puisque... Il y a une sorte de... On peut passer à travers les gouttes, alors qu'un mathématicien ne passe pas à travers les gouttes. S'il est mauvais, il est mauvais.
Mais alors, en même temps... Les mathématiques y ont gagné, et la littérature aussi, parce que c'est peut-être votre formation mathématique qui vous a, vous nous en raconterez, suggéré quelques bonnes idées que l'on retrouve dans ce roman. Je dis que vous êtes le président de l'Oulipo également, tout de même.
Oui, oui, c'est vrai.
Vous pouvez peut-être rappeler aux plus jeunes qui nous regardent ce qu'est l'Oulipo.
Oui, oui. Alors, ben, l'Oulipo est un groupe qui a maintenant 60 ans. On a eu en fait 60 ans il y a quelques jours. Le 24 ou 25 novembre 1960, on fondait l'Oulipo.
Avec Raymond Queneau, notamment.
Avec Raymond Queneau, François Le Lyonnais. Nous, on rejoint plus tard l'Oulipo, Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud. Et donc, c'est un groupe de travail qui s'intéresse à la littérature qu'on appelle sous contrainte, c'est-à-dire littérature soit avec des rythmiques, des structures, avec de la rime, enfin, quelque chose où on s'impose quelque chose. Par exemple, La disparition de Perec est un livre écrit sans la lettre E. C'est pas si simple que ça d'écrire un livre sans la lettre E. Pour prendre un autre livre de Perec,
Les revenantes après.
Ou Les revenantes après. Mais la vie mode d'emploi est un livre construit sur un déplacement d'un cavalier sur un damier 10-10. Donc c'est assez compliqué en fait à imaginer, mais ça donne un type de littérature dans lequel on évite le premier jet. Dans lequel on prend des chemins de traverse, dans lequel naissent des choses de la contrainte. C'est moi ce que je trouve intéressant dans la création, avec structure, avec contrainte. On ne va pas directement là où on voulait aller. On est contraint de passer par des bifurcations, des embranchements, des choix qui ne sont pas forcément ceux du premier jet.
Et alors, est-ce que vous diriez que l'anomalie fait partie de cette littérature sous contrainte, puisqu'on y croise énormément de choses? Il y a tous les genres dans votre livre. Il y a à la fois un roman d'espionnage, il y a un roman d'amour, il y a un roman policier,
oui,
il y a même un roman Gallimard.
Un roman Gallimard blanc.
Oui.
Oui, en fait, il y avait un projet dès le départ qui était d'avoir beaucoup de personnages. Quand on veut avoir beaucoup de personnages dans un roman, il faut les qualifier, il faut les incarner, il faut leur donner le moyen d'exister. Et un des moyens littéraires de faire exister un personnage comme un tueur à gages, c'est de le faire vivre dans un univers de tueur à gages, y compris un univers de langue. Donc je commence par un roman qui est un roman noir à la manchette, et ça dure 10 pages. Et pendant ces 10 pages, j'installe un tueur à gages. Ensuite, je passe à un roman de nature sentimentale avec un autre personnage, et la différence de style permet qu'à chaque fois qu'on évolue et qu'on passe d'un personnage à un autre, on reconnaît un peu dans quel univers on est. Donc c'est un jeu.
Donc il y a un jeu. C'est une question de rythme également, hein, parce que ça, c'est des ruptures de rythme.
Oui,
ça se fait à chaque fois. Vous écrivez différemment à la manière de...
C'est ça, c'est une... À la manière d'œil, en même temps, c'est un peu ma manière. C'est-à-dire que ce sont des choses que j'aime faire et avec lesquelles j'ai envie de jouer. Le roman de type, par exemple, pour prendre le tueur à gages, j'avais fait il y a quelques années un poulpe à la demande de Jean-Bernard Puy. J'avais adoré faire ça avec la règle qui avait été imposée par Jean-Bernard, qui m'avait dit, si tu dois faire un poulpe, tu le fais en 2 mois. Je l'avais regardé comme ça, parce que moi, écrire un roman, ça me prend un an et demi. Il m'avait dit, un roman policier fait en plus de 2 mois, ça ne peut pas être bon. Je trouvais que c'était un concept... un peu anti-Chandler, mais bon, pourquoi pas.
Et, c'était pas un poule sur Perec, c'était Perec.
La disparition de Perec.
Oui, voilà.
Oui, c'était j'en ai vendu par erreur. Hein. C'est aussi l'idée. Mais il y avait un cas à Perec, c'était un homme qui s'appelait Perec et qui disparaissait. Donc voilà, à partir du moment où on se prend un principe qui est un principe de genre, oui, il y a une dimension un peu calvinienne, parce qu'on pense évidemment à Italo Calvino et à Si per une nuit d'hiver un voyageur, dans lequel Calvino joue avec les genres. Alors c'était la principale idée qui était cette idée de travailler sur les genres. Et puis j'en avais une deuxième derrière qui était au niveau de la structure, qui était de travailler sur les tresses, travailler sur le Scooby-Doo, si on peut dire. C'est-à-dire avoir des fils colorés. Les fils colorés...
Bougez pas. Ah bah non, attendez, j'ai trouvé les accessoires des Morel. Pensez bien que j'ai trouvé l'accessoire du Le Tellier.
Ah bah voilà.
Le Scooby-Doo.
C'est un petit Scooby-Doo avec 3-4 couleurs.
Oui, pas bah très bien. Bah attendez, oh. Voilà, deuxième Scooby-Doo.
Ah, celui-là est plus compliqué.
Est-ce que vous pouvez nous montrer pourquoi et comment un roman se construit comme un Scooby-Doo?
Alors, je ne sais pas faire de Scooby-Doo à la main. Je sais les faire avec un dessin. Là, il n'y a que 2 couleurs.
Oui.
Et donc, ça veut dire que si on avait un système avec 2 couleurs, on aurait simplement 2 types de personnages. Et ces 2 types de personnages, ce serait un roman sentimental, je vois qu'il est rose, et puis un roman bleu qui peut être, par exemple, un roman policier. Et on entremêlerait les deux de manière à avoir systématiquement le roman sentimental avec le roman policier. Ça pourrait être, par exemple, un des personnages qui est une policière qui dénoue une affaire qui est celle-ci. Et on entremêlerait les deux histoires simultanément de manière à avoir un système narratif dans lequel il y a un contraste entre les deux situations. Et c'est ce qu'on pourrait faire. Alors, dans le roman L'Anomalie, il y a beaucoup plus de personnages.
11 personnages, hein, j'ai compté. 11 personnages principaux. Alors,
oui, c'est ça, il y a 11...
Principaux.
Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la liste des personnages. J'étais impressionné, je ne savais pas que j'en avais fait autant.
Ah bah, il y en a 243, parce que c'est les passagers de l'avion.
Justement, je n'ai pas les 243 passagers de l'avion. J'en ai choisi 8, je crois, dans l'avion, dont le commandant de bord. Et c'est eux que je suis. Alors, il y a donc, en fait, 11 fils que je tresse et que j'essaye de suivre de chapitre en chapitre. Je suis à la limite, à mon avis, de ce qu'un lecteur peut accepter.
Peut endurer, oui, c'est ça.
Peut endurer.
Mais cela dit, c'est passionnant parce que...
C'était volontaire et je pense que ça marche, c'est-à-dire que tout le monde m'a dit que ça fonctionnait, mais j'en ai pas mis 13 ou 15 ou 20, je me suis limité à ces 11 personnages qui tous sont très identifiés, qui sont très incarnés.
Moi, je vous remercie pour cette grande leçon de littérature, c'est une masterclass importante du prix Goncourt au Collège de France, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et la théorie du Scooby-Doo fait que peut-être le Scooby-Doo pourra rentrer dans une édition... complémentaire, non, du dictionnaire de l'inutile. Je vous offre Scooby-Doo et Hervé Letellier.
Merci.
Évidemment, avec tout ça, vous l'avez remarqué, depuis le début, je fais tout pour ne pas vous parler de ce qu'on appelle, dans un très mauvais français, mais néanmoins utile,
le pitch.
Ah, parce que si je vous parle du pitch de l'anomalie, je vais trop divulgâcher. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire commence au mois de mars 2021 et qu'elle ira jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet de l'année suivante. C'est l'histoire d'un avion, un Boeing d'Air France, qui se pose deux fois au même endroit, mais à 106 jours d'écart, avec les mêmes passagers. Voilà, j'en dis pas davantage, sinon on est obligé, évidemment, de raconter la fin, et ça, je ne veux pas, car vous avez réussi quand même autre chose. C'est le tour de force d'être addictif comme une série, et de faire en sorte que le suspense, les surprises et les rebondissements soient permanents jusqu'à la dernière lettre.
Oui.
Évanescente.
Oui, la dernière lettre, enfin les deux dernières lettres. Oui, l'idée, c'était qu'il n'y ait pas de point final dans ce roman, et que le lecteur que je prends au début, j'essaie de ne pas le lâcher avant la fin. Donc, il y a une petite technicité qui, effectivement, est celle... des systèmes, des séries avec des relances intérieures que je renie pas du tout. Hein. C'est-à-dire que c'était une volonté à partir du moment.
C'est aussi une contrainte, ça. C'est une contrainte supplémentaire, par exemple, de dire tiens, on va prendre. Alors, moi, j'ai beaucoup pensé à Lost, la série, mais on pourrait aussi parler de Game of Thrones avec ses 11 personnages ou 15 personnages aussi importants les uns que les autres et qui tous convergent.
Sense8.
Vers la fin.
Non.
Oui. Enfin, le.
Ouais.
Il y a une idée derrière.
Black Mirror aussi.
Ce qu'on assimile aujourd'hui aux séries, c'est quelque chose qui est très ancien en fait, parce que les grands romans du 19e,
Alexandre Dumas,
Les Misérables, Toto.
Ouais,
ce sont des séries, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté en soi, c'est même des comédies musicales. Donc il n'y a pas de difficulté en soi à avoir de nombreux personnages dans un roman et à traiter leur évolution et le retrouver. Enfin, moi, quand j'avais lu Les Misérables, je voulais retrouver Jean Valjean. Et parfois, il m'arrivait de sauter des passages pour retomber sur Jean Valjean et sa vie. Donc, c'est un phénomène qu'on a dans les séries. Donc, lorsqu'on fait le choix, qui est celui de l'anomalie, justement, d'avoir toutes ces histoires simultanément, enfin, d'être un roman de roman, il faut absolument perdre personne. Donc, il faut avoir une volonté de relance permanente, un peu comme dans les Tintins, qui sont pour moi un modèle du genre du page-turner.
Ah oui, parce que Tintin, c'est un modèle de page-turner.
Oui, parce que dans les Tintins, la dernière case qui se trouve en bas à droite est une case qui donne envie de tourner pour...
C'est la case où le suspense...
C'est une case de suspense.
À chaque fois,
regardez très marqué. Tintin, et moi, je trouve que c'est formidable que ça soit comme ça.
Mais alors vous, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que
vos 11 personnages, hein,
voilà, dans la logique du Scooby-Doo, c'est à chaque fois qu'une nouvelle boucle se fait, il faut que la précédente ait ce qu'on appelle en anglais le cliffhanger.
Hein, oui, absolument. J'ai volontairement créé en fin de chapitre des moments de tension qui donnent envie de continuer, d'avoir envie de voir ce qui va se passer. Et je commence chacun des chapitres en précipitant le lecteur dans un nouveau style à chaque fois et avec une accroche volontaire.
Alors donc, on l'a dit, il y a le roman policier, il y a le roman sentimental, il y a un truc qui est vraiment niveau Harlequin, mais en rigolo. Il y a aussi l'interview, hein, le rapport de police, l'email, il y a même le calligramme.
Oui, il y a le calligramme.
À la toute fin.
Et puis, il y a le roman blanc, un peu, qui pastiche un peu la littérature blanche.
C'est-à-dire la littérature qui est censée avoir le Goncourt. Parce que de vous à moi, que les jurés du Goncourt couronnent un pastiche de polar, de thriller, de bouquins d'anticipation et de SF, ça fait quand même longtemps qu'on ne l'avait vu, ça.
Moi, je suis très heureux de ce...
Tant mieux.
Très étonné.
Tant mieux.
Je suis un peu sidéré encore de la réussite au niveau du lecteur, enfin de ce livre qui marchait assez bien. Et le fait que les Goncourt les couronnaient m'a un peu étonné, mais j'étais extrêmement, extrêmement heureux.
Parce que vous pastichez aussi la littérature qui est traditionnellement la littérature de Goncourt.
Oui.
Victor Mizel, par exemple, Missel, ce écrivain très sérieux, cérébral.
Ce qu'écrit Missel, c'est j'ai mis dans un shaker une littérature que j'aime, qui est Jankélévitch, qui est Sioran, qui est Vialat.
Attendez.
Non.
Je vous cite. Jankélévitch sous LSD.
Oui, Jankélévitch sous LSD. C'est vrai qu'il y a des moments où Jankélévitch décolle un petit peu. Voilà.
François Morel, vous avez longtemps que vous êtes lecteur de Hervé Le Tellier. Ouais. Vous avez produit l'adaptation au théâtre de Moi et François Mitterrand, qui est le précédent livre de Hervé Le Tellier. Quel regard portez-vous sur ce qu'il vient de nous dire, sur cette façon de travailler, sur cette envie aussi de déclencher le sourire ou le fou rire à partir du décalage en littérature ?
Moi, je suis surtout très admiratif de son travail. Je me demande comment on peut écrire un bouquin pareil, parce que c'est d'une richesse inouïe, c'est-à-dire que c'est à la fois extrêmement léger, extrêmement profond, et puis à chaque fois que je lis un livre d'Hervé, c'est un prototype, c'est-à-dire que il ressemble jamais au précédent. Par exemple, je vois devant moi Toutes les familles heureuses, qui est un livre qui m'a absolument bouleversé, qui est un livre très personnel aussi, et qui n'a rien à voir avec celui-là, et tous les deux sont formidables et à la fois il y a un jeu sur l'écriture et puis il y a une voix très personnelle qui est dans le fond aussi assez mélancolique.
Aussi, c'est vrai. Alors surtout quand on rentre dans le vif du sujet, il ne s'agit pas de savoir ce qui est arrivé à cet avion qui s'est posé deux fois, mais enfin quand même, la question que vous posez, vous, Hervé Le Tellier, à travers cette histoire de Boeing qui se pose deux fois au même endroit avec les mêmes passagers, c'est existons-nous vraiment ? Qu'est-ce qui me prouve d'ailleurs que vous n'êtes pas là, je ne sais pas moi,
Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur une hypothèse qui m'avait été présentée il y a des années par un philosophe qui aujourd'hui dirige la philosophie à Oxford et qui s'appelle Nick Bostrom. Et Nick Bostrom avait cette idée qui pouvait paraître un peu folle, qu'il était infiniment probable que les êtres que nous sommes et qui croyons être des êtres biologiques ne soient pas des êtres biologiques, mais des programmes autonomes pris dans une immense simulation informatique. Et la théorie de Bostrom est intéressante parce qu'on ne peut pas d'abord l'infirmer. Si Bostrom a tort, comment prouver qu'il a tort ? On ne peut pas. Ça va un petit peu à l'opposé de tout ce que Popper nous a appris, ouais. Mais c'est pas voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai vu que tout à fait récemment, un article dans Science avait estimé que la possibilité que nous soyons des êtres virtuels était d'environ une chance sur deux.
Dans la revue Science.
Dans la revue Science.
Alors, il faut quand même expliquer ce qu'on entend.
C'est-à-dire que c'est trop.
Oui, c'est beaucoup, mais expliquez-nous ce que ça voudrait dire. Parce qu'il y a toute une tradition. Ça veut dire jusqu'à Matrix
Oui, mais c'est le contraire de Matrix, en fait. Parce que dans Matrix, ce sont des êtres vivants, existants vraiment, qui fournissent de l'énergie aux machines. Et là, c'est un peu le contraire. On est plutôt dans Black Mirror. On est plutôt dans un système dans lequel nous pensons exister, mais nous n'existons pas vraiment. Nous sommes pris dans une immense simulation. Cette simulation vise à voir ce que des êtres de type Cro-Magnon, par exemple, pourraient, en 40 000 ans d'existence, faire dans leur planète si vraiment ils existaient. Donc on peut imaginer que les Néandertals qui auraient survécu voudraient voir ce que ces brutes sanguinaires de Cro-Magnon auraient fait de la planète s'ils avaient triomphé de nos Néandertals. Et voilà, on est en train de fusiller la planète, on est en train de la polluer, on est en train de réchauffer le climat. et on est dans une simulation merveilleuse qui prouve qu'on va disparaître. Et la simulation s'arrête ou pas, et c'est toute la question de la chose. Et ce que je trouvais intéressant dans la...
Donc le « je pense, donc je suis » de Descartes, on oublie, bah, fini.
Non, c'est « je pense, donc je suis pris dans une simulation », avec une certaine chance que ça soit vrai. Ça n'empêche pas ni de penser, ni de croire qu'on existe. Ça pose simplement la question, c'est... À un moment donné, un des personnages le dit, il dit « Donc je ne suis pas quelqu'un qui est en train de boire un café assis à cette table ?» Et l'autre personnage lui répond « Si, ça pose simplement la question de savoir de quoi est fait la table et de quoi est fait le café. » Et c'est un peu ça le problème, on n'a aucune possibilité de vérifier quoi que ce soit. Tout ce qui nous parvient, en fait, ça peut simplement être analysé comme électrique, comme un élément de bande passante.
Donc c'est quoi votre livre? C'est la rencontre du logique et du magique?
C'est la rencontre... d'une logique et d'une technologie qui, étant tellement avancée, peut paraître magique. Parce que le problème de la technologie, c'est qu'un très très haut niveau de technologie peut sembler magique à quelqu'un qui ne la connaît pas. Si vous présentez un hologramme à un homme de Cro-Magnon qui vit dans sa caverne, il ne comprend pas que c'est un hologramme, c'est de la magie. Donc là, l'idée qu'on soit pris dans une simulation, ça peut paraître magique, mais si un jour on le prouve, ça sera ennuyeux.
Oui, ça, c'est effectivement pour tout le monde d'ailleurs.
Disons que ça posera notre rapport au monde d'une manière très différente.
Qu'est-ce que c'est l'humour? Comment ça marche? C'est quoi?
L'humour, c'est quand on rit quand même.
C'est pas mal ça. François Morel.
Je ne saurais pas dire. Je crois que c'est une façon d'être, une façon de vivre.
Une façon de vivre.
Et une petite distance sur les choses, quoi.
Ouais. Freud raconte, c'est sur le vice, un condamné à mort, on le réveille le matin. On lui dit « c'est l'heure ». Il se lève, il se cogne contre le chambranle et il fait « la journée commence mal ». C'est peut-être ça l'humour.
Fab Caro, vous qui êtes passé maître dans une certaine forme d'humour, vous sauriez dire ce que c'est?
Je ne saurais pas le définir. C'est une façon de vivre et puis c'est un mécanisme de défense aussi, je crois. C'est une espèce d'organe de survie.
C'est un bouclier chez vous?
Oui, un bouclier. Je crois. Sans humour, c'est difficile d'accepter... je sais pas, on vit quand même une tragédie. C'est quand même une tragédie, cette histoire. On est là, on est né, on a rien demandé à personne. On
se retrouve, ça se trouve, là. C'est pas vous, hein, et on n'est pas là.
Ouais, aussi, ça se trouve. Moi, j'aime bien cette idée-là, parce que ça pousse à l'humilité aussi. Se dire que peut-être on n'est que des créations comme ça. Et non, se dire que tout ça, c'est une tragédie. S'il n'y a pas l'humour, on ne peut pas survivre. C'est pas possible. Enfin, si on ne prend pas les choses avec dérision, si. C'est une espèce d'outil de survie.
Chloé, qu'est-ce que c'est l'humour pour vous, qui l'utilisez aussi beaucoup, mais souvent sur des sujets qui sont des sujets justement extrêmement durs, la crise existentielle, l'abandon, la solitude, le meurtre parfois aussi?
Il y a le mécanisme de défense, je suis hyper d'accord avec ça, et il y a aussi ce que Chris Marker disait pour l'humour noir sur la politesse du désespoir. Je pense que c'est un peu ça chez moi, oui. Mais c'est une nécessité, par contre, pour effectivement tenir à distance et transcender un peu le réel aussi. Parce qu'il n'est pas toujours facile à supporter, le réel.
L'anomalie d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, c'est chez Gallimard. Ce n'est pas inutile, ça n'a rien d'une anomalie. Les inscriptions à notre grand concours, si on lisait à voix haute, sont désormais closes. Et cette année, plus de 5000 classes participent avec leurs profs. Ça fait plus de 130 000 élèves de la 6e à la terminale inscrits à ce concours qui désignera au mois de juin prochain les vainqueurs, un ou une dans la catégorie collège, meilleure lectrice ou meilleur lecteur de France, un ou une dans la catégorie lycée. Alors, n'hésitez pas à revoir la grande finale de l'année dernière qui reste disponible sur le site France.tv si vous voulez vous préparez, mais pour l'heure, je vous propose les conseils d'un comédien. Un comédien de théâtre que vous avez vu également, on en parlait dans une série, là en l'occurrence c'est la série Engrenage. Il fut également professeur au Conservatoire National d'Art Dramatique. Voici, pour bien lire à voix haute, le tuto de Philippe Duclos.
Ça part d'une chose qui vous a touché, d'une espèce d'enthousiasme que vous voulez faire partager. Mais on part toujours d'une chose intime. Et ce partage, on va pas lire à n'importe qui. Je veux dire, on va pas partager avec n'importe qui. On va pas lire un truc qui vous importe à quelqu'un dont on n'a rien à foutre. Ça ne peut se faire que dans le champ d'une amitié, voire d'un amour. Et donc, je dirais, la lecture à voix haute, déjà, c'est un partage amical, amoureux. faut pas se tétaniser en face d'un résultat à produire. Ça, c'est la clé. Ce qui est essentiel, c'est que la pensée reste en rapport au texte qu'on va lire, c'est-à-dire à l'émotion qu'on a ressentie. Il faut garder ses émotions. Il faut penser à elles. Parce qu'on peut les oublier aussi. Vous voyez, on peut avoir une émotion de lecture, puis après, on oublie. Ah, c'est la cata, à ce moment-là. Alors, on se met à faire des trucs. Il faut surtout rester très près, encore une fois, de ses émotions premières. C'est la clé. Et alors, dans la vie, vous ne butez pas sur les mots? Il faut faire comme si c'était dans la vie. Bon, on bute sur un mot, on se reprend. On bute sur un mot, on ne dit pas je m'excuse, on ne se reprend pas, on n'a pas honte. Je veux dire, on a buté sur un mot. Mais quel est le problème de buter sur un mot?
Eh bien oui, quel est le problème? Il n'y a pas de problème, surtout quand on est bien entouré et avec des gens inutiles, c'est-à-dire les écrivains François Morel et son fils Valentin pour le Dictionnaire de l'inutile, Fabrice Caro, Hervé Le Tellier et Chloé Delhomme. Le cœur synthétique, publié aux éditions du Seuil, a reçu il y a quelques jours le prix Médicis. C'est un roman drôle, mais c'est aussi un roman tragique, je trouve, qui raconte le destin d'Adélaïde. Adélaïde est attachée de presse. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemble le milieu de l'édition, lisez le roman de Chloé Delhomme, Le cœur synthétique, parce que vous aurez quand même un aperçu par la satire.
Par la satire, quand
ouais.
même.
Oui, oui, pof.
Mais on n'est pas très loin de la réalité, en vérité, oui.
Oui, parce que votre attachée de presse, dans une grande maison d'édition parisienne, par ailleurs fraîchement divorcée, voit le célibat comme une aventure dont elle pense qu'elle sera de courte durée, hein, au tout début. Elle va découvrir avec effroi, dans votre roman, qu'avoir 46 ans, c'est son âge, est en réalité un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Rire de ce qui fait pleurer, ça aussi, c'est votre marque de fabrique, Chloé Delhomme. Qui est-elle, alors, cette jeune femme, si vous deviez nous la présenter, qui confesse avoir deux passions dans la vie, les livres et les chaussures?
Bah Adélaïde, c'est quelqu'un qui a le malheur d'être hétérosexuel. Donc, par conséquent, elle est tiraillée entre la volonté d'être affranchie du regard des hommes et en même temps, maintenant qu'à 46 ans, elle n'est plus effectivement dans la bonne norme miam-miam de ces messieurs, eh bien, c'est un peu désespérant et c'est un peu la flippe. Donc, elle va essayer D'abord, elle va aller de Carib en Scylla, donc elle va looser quelque chose de bien dans tous les clichés de la chiclite, hein, de cette littérature pour madame. Et puis après, elle va se reprendre.
Elle le veut tout de même, hein, parce que vous nous présentez quelqu'un qui, au départ, dit bah, voilà, ça y est, en fait, enfin libre.
Enfin libre, et puis très vite, elle est travaillée par l'épousite aiguë, c'est-à-dire que dès qu'elle croise un homme, elle ne peut pas s'empêcher de s'imaginer le jour du mariage avec les invités, la pauvre. Et du coup, elle lutte un peu, enfin, elle essaye de lutter contre le fait qu'elle cherche aussi. Et puis ça finit bien.
On ne raconte pas la fin,
c'est comme pour le livre de l'anomalie.
C'est comme pour l'anomalie. Alors, il y a quelques anomalies tout de même, enfin, au moins peut-être physiques et mathématiques que chez Hervé Le Tellier, mais enfin tout de même. Celle-ci, par exemple, à peine divorcée, elle s'invente une histoire d'amour, mais avec un compagnon imaginaire, qui est la fuble du doux prénom de Vladimir.
Oui, c'est joli, c'est slave. Bah oui, elle yoyote un peu. Elle yoyote un peu, ah bah tiens, mais en même temps...
Le yo-yo que François a cassé est-il aussi le symbole de la littérature, selon Chloé Delhomme?
Non, c'est pas le symbole de la littérature. C'est juste que je voulais montrer à quel point est-ce qu'une femme dans cette situation, invisibilisée aussi, peut être en fragilité et combien la cruauté et la brutalité de la société dans laquelle on se trouve peut mettre en péril le soma.
Qu'est-ce que c'est une femme invisibilisée? Je voudrais qu'on s'arrête sur cette expression.
Eh bien, c'est-à-dire qu'à 46 ans, elle ne compte plus. On ne la voit plus. Sur le marché de l'amour et aussi même dans le monde du travail, elle commence à être un peu sur la sellette. C'est un âge qui est très, très difficile à tenir, en fait. C'est-à-dire qu'on a le corps qui change, on a fait le deuil des rêves de jeune fille, on n'a plus la même aura non plus, on nous le fait payer très cher. Et trouver sa place quand on est en deuxième partie de vie et qu'on recommence à zéro n'est pas du tout aisé. Et c'était ça qui m'intéressait... vraiment spécifiquement la difficulté d'une femme d'au-delà de 45 ans. Pas complètement les 50 tapés, ça je n'ai pas encore vécu, je ne sais pas ce que ça peut amener comme autre problématique. Je pense que ça sent pire. Et je voulais traiter de ça parce que je trouve que c'est... Alors il y a évidemment des romancières comme Camille Laurence par exemple qui s'est intéressée à ce que c'était qu'une femme de cet âge-là. Mais je n'ai pas trouvé tellement de réponses dans la littérature et j'avais envie de mettre ça un petit peu à l'honneur, oui. D'avoir une héroïne qui n'était pas une jeunette et qui n'était pas non plus une vieille dame indigne, très forte. Je voulais une héroïne qui était en situation de faiblesse aussi.
Mais pourquoi l'avoir traité, cette héroïne, l'avoir mise dans des situations qui sont des situations que vous racontez, non pas, j'allais dire, à la Camille Laurence, puisque vous la citez, de manière parfois très clinique, parfois très froide aussi, mais plutôt avec l'humour, et un humour qui, pardonnez-moi, mais va du potache qu'on adore à la subtilité et la remise en cause de soi aussi.
Oui, mais parce que je crois qu'il n'y avait que par l'humour qu'on pouvait s'en sortir, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, jusqu'à présent, à quelques ouvrages près, j'ai majoritairement fait de l'autofiction. Là, il n'était pas question de... Si ça avait été sur le mode autofictif, ça aurait été pathétique. Donc, je trouvais que prendre des personnages...
Pourquoi ? Parce que l'autofiction devient pathétique à vos yeux à un certain âge, dans cette circonstance-là ?
Non, pas à un certain âge. C'est plutôt que quand tout n'est que douleur. Parce que faire preuve d'humour dans l'autofiction face à cette situation-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et l'humour était vraiment super nécessaire. Je voulais une comédie pour traiter de ce sujet. Je voulais qu'on rie le cœur serré.
Mmh. Et le cœur serré, quand même.
Voilà. Oui. Mais qu'on éprouve ce petit malaise, décalage, mais qu'on en rit. Et pour les lectrices, surtout. Parce que c'est un livre que j'ai écrit pour mes copines proches.
C'est aussi... peut-être pas mal que les hommes le lisent, non ? Ça leur permettrait d'être un petit peu moins couillon que
Et moins goujat aussi, peut-être. Ouais. Ouais, ça peut être utile. Mais c'est vrai que mon geste de base, c'est un peu comme sur mon livre précédent, sur Mes bien chères sœurs, j'avais envie de m'adresser aux femmes, en fait. Mais effectivement, ça peut peut-être être utile, pour le coup, que les garçons jettent un œil.
Je voudrais revenir sur la femme invisibilisée. Est-ce qu'elle est invisibilisée par ces hommes, ou est-ce qu'elle s'invisibilise elle-même ? Parce que à plusieurs reprises, vous n'êtes pas tendre non plus avec elle. C'est-à-dire qu'avec ses... Jusqu'où est-elle, sinon responsable, du moins complice ?
Oui, il y a une forme de... Mais parce que c'est l'injonction principale et que du coup, elle s'y plie. Et je crois que c'est très difficile... Quand on vit dans le quotidien cette invisibilisation, quand on n'existe plus en société, quand on se... Il y a une scène de danse au début du livre où elle va en boîte de nuit et on lui marche littéralement dessus parce qu'il n'y a que des
trentaines autour. Ouais.
On ne la voit plus. Et ça, c'est quelque chose qui est réel, que j'ai vécu, que autour de moi, beaucoup d'amis ont vécu. Et je trouvais que c'était... Bien sûr, ça y participe, c'est-à-dire qu'on y participe, c'est-à-dire qu'on ne s'érigeant pas contre et en se vivant victime de ce système, mais en même temps, quand le regard n'est pas posé. Et on n'a pas à courir après le désir de l'homme. Moi, c'était plutôt le geste inverse que je voulais pour mon héroïne, qu'elle devienne autonome affectivement et qu'elle puisse se passer du couple.
Dans les grandes questions que vous abordez, il y a celle, effectivement, de ce regard. Mais, et puis du paradoxe aussi de votre héroïne, Adélaïde. Est-ce qu'elle s'en veut de se soumettre au regard des hommes ? Parce qu'elle pourrait aussi décider de s'en affranchir. Elle est quand même assez bonne pour s'affranchir des choses. Hein, parce
oui.
que, alors, elle est tocophobe. Qu'est-ce que c'est que la tocophobie ?
Elle a un problème avec l'accouchement et les femmes enceintes.
Donc ça, pas question. Elle aussi, cette addiction...
Oui, elle fait un peu trop la fête, Adélaïde.
Voilà.
On va dire ça comme ça. Et puis, elle a un profil. Effectivement, elle est nullipare, elle n'a pas d'enfant. Donc, elle n'est pas traditionnelle pour une femme de son âge.
Elle s'en veut de se soumettre au regard et au désir.
Elle se sent humiliée. C'est surtout que c'est très humiliant de se dire « je suis dépendante de ce regard » alors qu'elle se voudrait, oui, autonome, libre et solide et en empowerment.
En empowerment.
Oui, elle se voudrait en empouvoirment dans le texte.
Ça pour l'Académie française. Sinon, les Morel vont se faire engueuler encore. Ils auront laissé passer les anglicismes sur le plateau. Et vous écrivez au tout début, c'est une femme comme une autre qui désormais apprend la solitude comme l'exilé apprend une langue étrangère.
Oui, parce que Adélaïde a toujours été en couple depuis qu'elle a l'âge d'avoir des petits amis. Donc elle a toujours été... Elle découvre ce que c'est que la solitude.
Et là, c'est le choc, comme l'exilé, oui, découvrant la langue étrangère.
Oui, bah oui, parce que c'est plus les mêmes codes, le temps devient flottant. C'est quelqu'un qui a toujours été habitué à la conjugalité, donc à une certaine rythmique du quotidien, à un rapport ancré.
Hervé Le Tellier, il y a un petit peu d'Oulipo hein, tout de même dans Le cœur synthétique de Chloé Delhomme, hein. Avec ne serait-ce que cette pièce de théâtre, parce que vous nous la donnez à lire sous forme de pièces et de répliques entre Adélaïde et sa meilleure amie, enfin ses meilleures amies en fait.
Oui, le passage effectivement qui est un passage uniquement théâtral, c'est un moment de rupture très très intéressant. Et puis il y a aussi des références aux zombies. J'adore le passage, c'est un moment préféré du livre. Le moment où elle compare ses capacités à fuir les zombies avec Martin, c'est ça ?
Oui, oui, c'est hein l'homme qu'elle rencontre qui lui explique qu'en cas d'attaque zombie, il la sacrifierait parce qu'elle court moins vite que lui, c'est évident, donc ça serait un poids. Oui, elle tombe vraiment
et
sur...
Et c'est le Caribe dans Scylla.
Oui, c'est clairement ça. L'aspect oulipien serait plus sur le jeu des titres, en fait.
Parce oui, sur les chansons.
J'ai utilisé que, à part pour le premier et le dernier chapitre, où c'est des titres de livres féministes, c'est que des titres de chansons.
J'ai demandé à la Lune, partenaire particulier...
On va tous crever.
Comme d'habitude.
Didier Super aussi, oui, il y a un peu de tout.
Ah, On va tous crever, c'est une chanson ?
Oui, c'est une chanson de Didier Super.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui.
Il y a La Reine des Pommes aussi, évidemment. Hein, on peut continuer comme ça. Pendant que les champs brûlent.
Il y a beaucoup de tubaïtises, effectivement.
Oui, l'amour, c'est comme une cigarette.
Bah oui, je voulais un roman pop. La musique est très présente. Elle se fabrique des souvenirs avec sa bande-son. Donc, je voulais ça. Et puis, j'ai fait un disque aussi à côté avec des chansons où on retrouve Adélaïde. Donc, il y avait un écho synthé-pop très fort. Je voulais ça.
Alors ça fait partie de ce que j'aime chez vous. C'est-à-dire que vous êtes, pardonnez-moi, mais j'adore ça depuis longtemps, vraiment l'artiste complète et brin de zinc. C'est-à-dire qu'un livre ne suffit pas, vous l'accompagnez d'un disque. Alors de temps en temps, c'est un spectacle. Enfin, le genre de truc que vous montez une fois de manière très éphémère. Quel est le projet qui vous anime ?
Le truc, c'est que moi, je m'ennuie très vite, en vrai. Ça part vraiment de ça. Ce n'est pas une sorte de plan intellectuel. C'est que je m'ennuie très vite et dès que je m'ennuie, j'ai envie de mourir. Donc, il faut quand même s'organiser. Donc, du coup, je m'occupe beaucoup. Et là, le fait est que quand j'ai fini le livre, j'étais en train de le terminer. Je suis tombée sur deux musiciens super, Eric Elvis Simonet et Patrick Bouvet, qui est auteur par ailleurs. Je les ai vus jouer, je me suis dit, il faudrait un son comme ça pour accompagner le livre, effectivement, dans les performances. J'en fais une à la Maison de la Poésie bientôt. Donc, du coup, je me suis dit, oui, un disque, c'est une bonne idée, avec des chansons que je vais écrire toute seule, puisque j'aimerais bien faire parolière, mais on vient presque jamais me chercher, alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, du coup, non, mais c'est important de... D'abord, je travaille beaucoup, Et en plus, j'ai besoin de rigoler un peu. Enfin, je veux dire, c'est un travail extrêmement solitaire.
Ça ne se voit pas à première vue, ça ne se voit pas forcément.
C'est-à-dire que je suis une grande rigolote,
hein, oui, voilà.
Ça ne se voit pas
vous me l'accorderez.
À bord. Oui, oui.
Oui. Et alors, pourquoi ce pince sans rire qui est très, très réussi dans vos livres, mais particulièrement dans celui-ci, qui est peut-être le plus drôle
celui-là,
de
c'était
que vous avez
une comédie
écrit.
Quasi officielle.
Oui, mais enfin, il y a toujours eu de l'humour, y compris dans le plus sombre de ce que vous avez écrit.
Mais ça, je ne sais pas, ça, c'est un truc qui... Alors, autant une métaphore peut se travailler, autant je crois que le sens de l'humour, c'est un truc qu'on l'a ou on ne l'a pas. Enfin, je pense qu'on ne va pas faire l'école du rire pour pouvoir faire des livres rigolos, quoi. Donc,
François Morel.
Non, je suis d'accord. Non. Et en plus, il y a des scènes absolument terribles, tragiques, avec ce monsieur qu'elle rencontre pendant quelques mois. Mais c'est drôle et c'est à pleurer, quoi.
On a essayé, voilà. Alors, miroir de ce que c'est aussi que cette situation.
Une des choses qui font que, justement, le livre, non seulement est drôle tout en étant sur les choses à pleurer, mais qui a un tout petit peu d'espoir, c'est quand même ce bel éloge de la sororité et de l'amitié que vous faites. C'est, depuis quelques livres, vraiment votre combat aussi, la sororité. En l'occurrence, ça la sauve. Est-ce qu'on peut dire que cette amitié féminine n'a rien à voir avec, un, l'amitié des hommes entre eux, on a quatre qui se connaissent sur le plateau, et peut-être aussi l'amitié homme-femme?
C'est différent. Qu'est-ce qui les distingue? C'est différent. C'est un lien indéfectible, c'est quelque chose, la sororité, qui est vraiment de l'ordre, je pense, du féminin. On est, comme il y a une amitié virile avec des codes de fraternité, la sororité, on est dans la parole libre, on est surtout dans un rapport horizontal. Et c'est ça qui est très, très important. Et moi, je pense que c'est la planche de salut, ne serait-ce que parce que statistiquement, on sait qu'il y a effectivement plus de femmes que d'hommes, beaucoup, que les hommes meurent en premier. Et donc, si on ne s'organise pas entre femmes, on va finir vieille toute seule et ça sera très, très triste. Donc, je pense qu'il faut s'y prendre tôt.
Explication de titre, s'il vous plaît, le cœur synthétique.
Le cœur synthétique, ça sonne comme un 45 tours des années 80. C'était un peu l'objectif, que ça ressemble presque à un titre d'Élie Jacquenot.
J'ai pensé à Hervé Le Tellier, parce que vous faites un petit peu quelque chose qui me rappelle, moi, Le Tellier, c'est-à-dire qu'il y a deux fins. Vous ne choisissez pas. Non. Deux fins possibles. Qu'est-ce que ça signifie ?
Peut-être, et néanmoins, peut-être aussi, oui. Ça sous-entend que je ne voulais pas finir ce livre, qui est une parodie de Chick Lit à bien des égards.
Ah, aussi.
Aussi. Je ne voulais pas terminer avec « Elle rencontre un homme et tout s'arrange », parce que c'est épouvantable, je veux dire, au niveau du message, c'était...
Comment ça, c'est épouvantable? Vous nous avez expliqué qu'elle cherchait un homme depuis...
Oui, mais elle a tort.
175 pages.
Voilà, mais elle a bien tort de chercher un homme pendant 175 pages. Et je ne voulais pas finir sur ce côté. Vous êtes... On ne peut être accompli que par le couple, parce que c'est un message qui est contre-productif à mourir. Et je ne voulais pas non plus qu'elle finisse seule comme une guerrière, parce que c'était donner quand même une morale à l'histoire.
Donc il n'y a pas de morale à l'histoire?
Non, il n'y a pas de morale à l'histoire. Je tenais à ce que la seule morale possible, ce soit la sororité est la porte de sortie, les filles, organisons-nous. Ce n'est pas vraiment une morale, c'est plus un petit conseil.
Et le rire? Rions-en.
Et rions-en, oui, oui, c'est primordial. C'était vraiment ça, l'idée.
Je crois que un des grands passages, c'est le salon du livre.
Ah.
Page 141, vous avez tous fait ça, vous, Fab Caro, vous le racontez, ça aussi, dans une de vos BD.
La solitude.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. Oui.
La solitude de la signature.
Ouais, oui, oui, c'est oui. C'est hyper drôle, ce passage.
Il y a ça dans les trois livres.
Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai.
Donc ça doit vraiment exister.
C'est que c'est une sorte.
Pour vous, Hervé Le Tellier, on peut considérer que c'est un lointain souvenir à partir de ce soir. Quoi. Ça y est, pris Goncourt. Vous allez voir que vous n'allez pas être si solitaire.
Je me souviens très, très bien de longs passages solitaires dans les salons du livre.
Ouais. Ah, c'était
Est-ce que vous avez eu un auteur goujat qui vous dit je vous ai touché combien par. Livre, 2 euros, je vous donne 2 euros, mais gardez le livre.
Ah non, ça ne m'est pas arrivé.
Arrivé vraiment à un collègue dont je ne citerai pas le nom, mais j'ai assisté à cette scène.
C'est une scène autobiographique.
C'est une scène à laquelle j'ai assisté, où un auteur qui était en signature, quelqu'un lui a dit combien coûte votre livre? Vous êtes bien désœuvré, combien votre livre? C'était de 20. Vous touchez combien? 10%, voilà 2 euros.
Heureusement que ce n'était pas un poche.
Ah non, non. Non, non, ça peut être d'une grande violence, ce qui se passe sur les salons, bien sûr.
Le cœur synthétique de Chloé Delhomme, prix Médicis, c'est aux éditions du Seuil, satire, mais pas que, et bel éloge de la sororité. Elles ne sont pas inutiles, loin de là, même si elles ne sont pas essentielles pour ceux qui nous gouvernent. Les librairies ont enfin ouvert samedi dernier. Les libraires indépendants ont besoin de vous plus que jamais. Allez, soutenez-les. Leur énergie est intacte, leur enthousiasme est communicatif. Démonstration, tiens, avec Thomas Auxerre. Il tient la librairie Lamandier, c'est à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Et Inès de la Motte-Saint-Pierre est partie à sa rencontre. Regardez ce qu'on trouve à Lamandier.
Ça y est, on est ouvert. Alors j'ai vraiment envie de dire, enfin, le livre, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour nous de retrouver les lecteurs. La librairie, c'est vraiment un souffle. C'est un souffle d'énergie, c'est ce que nous disent les gens. C'est un souffle de bonheur aussi, c'est ce qu'on nous dit. Et puis voilà, on s'amuse, on découvre des textes, on échange. C'est ça, vraiment, la librairie. Donc moi, je retrouve mon métier. Je suis très heureux parce que ça fait des semaines que j'attendais ça. Et j'espère que là, définitivement, on va rester ouvert tout le temps. Alors, s'il y a un livre à lire absolument, c'est Lonesome Dove de Larry McMurtry aux éditions Gallmeister. C'est une sorte de western qui va vous emmener dans le Grand Ouest. C'est un livre très drôle, pince sans rire, on peut le dire. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de l'Odyssée d'Homère, si Homère s'était fait aider des Monty Python pour l'écrire. C'est grandiose, c'est juste génial. Le livre qui m'a pris aux tripes, c'est Le jour de Corneille de Jean-François Beauchemin. C'est un livre avec une écriture mais unique. On ne sait pas si l'auteur écrit en ancien français ou s'il parle le patois. On suit un personnage qui est élevé par son père au fin fond d'une forêt. On lit des pages, on les relit, ça m'est jamais arrivé. Mon livre des glingos, c'est Pinocchio de Winchlus. En fait, c'est le conte de Goldoni qui a été revisité par l'auteur, mais alors on est loin des standards de Walt Disney. C'est plutôt avec une bonne dose d'humour noir. Le dessin est incroyable, c'est vraiment très beau. Ce qui est génial, c'est que ça donne encore plus de profondeur aux propos. Pour moi, vraiment, il n'y a pas d'équivalent. Ah bah, mon livre drôle, c'est une bande dessinée, c'est Zai 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 de Fab Caro. Ce qu'il y a de plus drôle dans cette bande dessinée, en fait, c'est d'abord l'écriture. Il y a des running gags, il y a des situations où, en fait, Fab Caro réussit quasiment à ce qu'on, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on termine la blague. Ça, c'est quand même très rare de voir ça. Et puis, c'est des personnages, c'est une situation, c'est un enchaînement de tout ça. Je crois qu'il a une recette un peu secrète, en fait. Faudra lui demander.
Eh bah, tiens. Et on va lui demander, y a-t-il une recette un peu secrète chez Fab Caro, Fabrice Caro, dont les livres alors, sont à mes yeux, et depuis longtemps, des petits traités de survie dans le monde actuel. Le principe est simple, très efficace, il s'agit de créer du pire pour générer du mieux. Et il y a donc eu Zai 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 Zai, dont notre ami parle extrêmement bien dans sa librairie. Il y a eu Le Discours, bientôt au cinéma, avec François Morel. Ben oui.
Benjamin Laverne, formidable, notamment.
Et alors, en attendant de voir Fab Caro au cinéma, on peut lire Broadway chez Gallimard. Alors là, c'est un festival de quiproquos. Vous mettez en scène l'homme blanc de 46 ans, presque 50, affublé de deux ados tumultueux. L'un est passionné par le dessin, subitement, à 14 ans. Enfin, dessin conceptuel tout de même. Et puis l'autre est en perpétuel chagrin d'amour. Le tout sur fond de défis quotidiens. Par exemple, comment éviter l'apéro chez les voisins? Et la perspective des vacances entre amis, enfin amis. À faire du paddle à Biarritz. D'autant que vous êtes plutôt préoccupé par l'enveloppe bleue que vous venez de recevoir, celle du programme national du dépistage du cancer colorectal, mais qui arrive avec 4 ans d'avance. Que faut-il en conclure? Tout bascule donc, Fabrice Caro, lorsque le narrateur de Broadway reçoit cette enveloppe plastifiée bleue. Il faut peut-être préciser, si vous voulez bien, c'est très important, un bleu colorectal. Qu'est-ce que c'est que le bleu colorectal?
Un bleu colorectal, ouais, c'est un bleu assez particulier. Enfin, moi, pour écrire le livre, je n'avais pas l'enveloppe, moi. Parce que
je... Ah, vous ne l'avez pas reçu?
Non, non, non. Je suis trop jeune.
Donc, j'avais... Les vieux rigolent hein, sur le plateau.
J'avais besoin, pour l'écrire, j'avais besoin de... que l'enveloppe soit incarnée, en fait. J'avais besoin de l'objet. Donc, j'ai fait le tour des gens de plus de 50 ans autour de moi qui auraient pu la recevoir en me disant est-ce que vous ne pourriez pas me prêter votre enveloppe? Bon, ça fait un petit peu malade mental comme ça.
C'est-à-dire que si vous voulez, si les amis en disant « Est-ce que tu peux me prêter ton enveloppe colorectale ?»
Oui, non, c'est un petit peu décalé comme question. Et puis, il y a un ami qui, gentiment, qui ne l'avait pas ouverte, qui m'a offert, le super cadeau, qui m'a offert son enveloppe. Et donc, j'ai écrit le roman avec l'enveloppe à côté, une espèce de totem comme ça. Mais j'avais besoin de l'objet, j'avais besoin que l'objet soit incarné. Et j'ai été surpris par ce bleu. Alors, je ne sais pas si tout le monde reçoit la même, mais lui, ce qu'il m'a envoyé, c'est une espèce d'enveloppe plastifiée bleue comme ça, avec un objet dedans. Et j'ai pas osé l'ouvrir, moi j'avais peur que ça me porte la poisse. Je suis un petit peu superstitieux. Et ouais, j'étais surpris par ce bleu-là, que je trouvais assez gai, et qui était un petit peu en décalage avec le message, quoi. Et depuis que le livre est sorti, je reçois des messages de gens, mais que je connais pas en plus, sur les réseaux sociaux, sur Messenger, des gens qui reçoivent l'enveloppe et qui l'envoient en photo, en me disant « ça m'a fait penser à vous ». Il y a des auteurs qui reçoivent des déclarations d'amour comme ça. Moi, je reçois les enveloppes colorectales aussi. Bon, c'est bien aussi. Mais
ce qui est très important pour bien suivre, c'est que votre personnage a exactement le même âge que le personnage de Chloé Delhomme, 46 ans. Je passerai sur la différence entre être un homme et être une femme à 46 ans, mais en l'occurrence, il reçoit avec 4 ans d'avance cette fameuse enveloppe. Et évidemment, votre narrateur ne croit pas une demi-seconde que ça puisse être une erreur de logiciel. C'est forcément un signe. Lesquels signes sont bien utiles pour un écrivain, puisque c'est à partir de là que les quiproquos se mettent en place.
Oui, oui, j'avais besoin d'un point de départ, d'un déclencheur comme ça. Je voulais parler d'un type qui a, bon, comme par hasard, un petit peu mon âge, et qui subit un petit peu tout, qui subit sa famille, qui subit son boulot, qui subit ses voisins, ses amis, mais qui s'en était pas forcément aperçu jusque-là, mais comme ça nous arrive à tous, en fait, de micro-compromis en micro-compromis, on s'éloigne peu à peu de ce qu'on voulait faire, mais on sent... pourquoi pas, on finit par s'éloigner de... Et lui, il s'en était pas forcément rendu compte jusqu'à ce déclencheur-là. Et le déclencheur, ouais, il voit ça comme un signe, en fait.
C'est peut-être ça, d'ailleurs, hein, le point commun entre votre univers, François et Valentin Morel, Chloé Delhomme, Fab Caro, l'idée que, après tout, il va falloir parler avec humour de quelque chose d'assez grave, qui est qu'on subit la crise existentielle qu'on traverse.
Ouais, cet âge-là, 46 ans... Ouais, arriver, et cette enveloppe qui lui fait prendre conscience que 46, presque 50, et arriver à mi-vie, est-ce que j'ai vécu vraiment tout ce que je voulais vivre? Est-ce que j'ai pas laissé des choses sur le bord du chemin? Est-ce que je suis là où je devrais être, en fait?
Vous disiez, c'est l'histoire d'un homme qui subit. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, non, en fait, j'ai juste pas envie d'aller à l'apéro chez le voisin? J'ai pas du tout envie d'aller faire du paddle à Biarritz?
Parce que c'est dur de refuser. Enfin, moi, je ne sais pas refuser. C'est pas évident de faire avec...
Vous faites partie de ceux qui, comme votre personnage, disent « c'est parfait »
Un petit peu. Hélas...
Vous savez, on sort de chez le coiffeur, il vous a complètement raté, et ça, c'est parfait. Ou alors au restaurant, c'est infâme, mais on dit « non, c'est parfait
». Mes filles disent toujours que j'écris toujours le même bouquin, mais elles n'ont pas tort, en fait. Moi, j'écris toujours un petit peu sur les mêmes personnages, une espèce d'archétype comme ça qui, hélas, me ressemble un petit peu... c'est des gens qui ont du mal avec le refus, avec les codes sociaux, avec le vivre ensemble, tout ça. Et ils pourraient ne pas subir, parce que c'est des petits détails. On pourrait très bien ne pas aller chez les voisins boire l'apéro, on pourrait très bien refuser des vacances à Biarritz, mais il y arrive, c'est pas évident de refuser, c'est pas si facile que
Qu'est-ce qui empêche?
Des codes sociaux, c'est ça.
Les codes sociaux.
Se sentir exclu, un petit peu comme les troubles fêtes. Quand vous participez pas à la grande fête, on vous regarde d'une manière bizarre. Des amis qui vous disent « viens, on va faire du paddle à Biarritz », si on dit non, on est pestiféré. Après, j'ai rien contre Biarritz, c'est une formule qui est venue comme ça, j'ai rien contre...
le paddle
peut-être un petit peu, mais... Ouais. Non, j'ai rien contre le paddle à Biarritz, c'est un truc qui est sorti comme ça.
Non, mais en même temps, alors, de quoi le paddle est-il le nom? Parce qu'il faut quand même qu'on se penche sérieusement sur cette philosophie du paddle à Biarritz. Le paddle, ça peut sembler grotesque, mais pas du tout, page 191, vous écrivez « J'ai du mal à tenir sur ce truc comme j'ai du mal à tenir sur la vie ».
Ouais, c'est ça. C'est
une très belle métaphore, je trouve.
Ouais, c'est une invitation. En plus, c'est une invitation qui, c'est une implication physique. Quand vous êtes invité par des amis à aller au cinéma ou au théâtre, on peut y aller puis s'assoupir. Ouais. Ça se voit pas, c'est pas très grave. Mais là, dès qu'on vous invite, on vous invite à quelque chose de physique, du paddle ou du trek ou du canoë, c'est la mort. Ça se voit que, là, vous pouvez pas, si vous y allez, ça se voit tout de suite. Au cinéma, on peut dormir. Donc, il y avait... Alors, j'aimais bien le paddle à Biarritz qui est sorti comme ça. Je trouvais ça très musical, donc je l'ai gardé. Enfin, j'ai vérifié qu'on pouvait faire du paddle à Biarritz sur Google, quand même. Mais après, je me suis dit, ça implique... Physiquement, ça implique quelque chose, quoi, de faire du paddle. Donc, je voulais quelque chose de hyper anxiogène. Je crois qu'il n'y a pas plus anxiogène pour moi...
Que le paddle à Biarritz.
Ouais, j'ai jamais fait de paddle. Enfin, à Biarritz, pas forcément. Mais quelque chose de physique comme ça, où on donne de son corps.
Alors, vous aurez compris, évidemment, vous qui nous regardez, que le paddle à Biarritz traverse tout le livre comme à la fois la menace, une espèce de dent de la mer, vous voyez, mais en plus effrayant pour le narrateur. Et on pourrait se demander, d'ailleurs, Valentin, si le paddle pourrait faire son entrée dans le dictionnaire de l'inutile, maintenant que Fab Caro lui a donné ses lettres de noblesse littéraire.
Moi, je ne suis pas spécialiste du paddle, mais volontiers, s'il veut nous écrire un texte, évidemment. pour le deuxième tome.
Ah oui, c'est vrai, j'oubliais qu'il fallait que ce soit les autres qui bossent. Ouais, dans votre dictionnaire. Ben oui, ouais. C'est tant qu'à faire.
Non, mais c'est marrant ce qu'il dit. Enfin, non. Non, c'est bien parce qu'il dit le personnage, c'est un peu moi. Mais évidemment, quand on lit Fab Caro, à chaque fois, on se dit le personnage, c'est un peu soi, évidemment. Ça parle que de nos petites lâchetés, nos peurs, de nos trouilles, de parler aux autres et tout ça. Et en même temps, c'est à hurler de rire. Et c'est incroyable.
Il traque la drôlerie dans l'ordinaire. Mais c'est aussi une réflexion douce amère, un petit peu mélancolique sur la paternité, ce livre. Même chose, comme Chloé de Laume, on se dit, mais on va en pleurer tellement c'est impossible de se dire qu'on n'est peut-être pas à la hauteur des attentes d'un fils, qu'on est peut-être un mauvais père, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas y faire, qu'on devrait, mais qu'on ne fait pas. Et vous, vous le traitez par l'humour.
Oui, oui. Bah, c'était un des points de départ aussi. Quand je m'étais aperçu que j'avais écrit sur le couple pas mal, dans des BD, dans le roman précédent. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais parlé de la paternité, alors que c'est un truc qui me touche. Et j'avais envie de parler de la paternité. Alors, comme par hasard, le père a deux enfants. Bon, moi, j'ai deux filles, mais j'ai changé pour pas que ça se voit trop. Donc, il y a un garçon et une fille qui ont le même écart. Donc, le fameux 14-18. Et je ne sais pas si c'est un... Moi, je crois que c'est un bon père. Enfin, oui. A priori, non, c'est pas un très bon père. Mais c'est un père maladroit.
Il se demande comment parler.
Ouais, voilà, il s'en sort pas. Il sait pas. C'est comme tous les pères, mais avec beaucoup de pudeur, en tout cas. Enfin, un gros problème de communication, une espèce de pudeur qui fait que il a du mal à régler les problèmes de ses enfants. Donc, il va mettre des cierges. Enfin, il fait ce qu'il peut, mais il s'en sort pas.
Il fait comme il peut, quoi.
Il fait comme il peut, je crois que c'est ça. Et en fait, un truc, moi, qui me rassure, c'est de me dire, on est un bon père à partir du moment où on aime ses enfants. Alors, c'est peut-être un truc pour se rassurer, mais voilà. Je crois que c'est ça, le seul critère. On est bon père quand on aime ses enfants. Après, on est un petit peu maladroit et un petit peu pudique. C'est pas évident de gérer tout ça.
Valentin, quand vous avez lu le livre de Fabrice Caro, et sur cette partie, sur ce passage, justement...
Moi, surtout, j'ai adoré ce bouquin. Ça m'a fait penser aux auteurs américains des années 70, comme John Fante, avec une idée de dépression et d'humour en même temps hyper drôle. Donc j'ai été très... très, très... J'ai adoré le bouquin.
Sur la paternité, alors évidemment, il se demande comment faire, puisque tout commence avec le proviseur qui le convoque en lui tendant le chef-d'œuvre dessiné de son garçon de 14 ans. Qui a effectivement décidé de représenter ces deux professeurs en une masse informe en train de copuler. D'où question, comment notre chère tête blonde passe-t-elle des Playmobil au dessin de l'œuvrette ? Qui a un mystère tout de même. Vous envisagez tout, y compris les options Le Tellier, c'est-à-dire qu'on les aurait enlevés, les extraterrestres, on les a remplacés, c'est pas eux.
Ouais, c'est pas évident cet âge-là. Il y a une espèce d'ellipse. Qui est presque en temps réel, en fait. Enfin, ça fait phrase de vieux con, comme ça, de dire que ça passe très vite, mais... on passe de la phase des jeux comme ça, très innocents, après à cette phase de la puberté, où d'un coup, on se sent débordé. Alors lui, il a double contrainte. Il a la contrainte de sanctionner parce que son fils a fait une bêtise, mais en plus, il y a une dimension de sexualité. Donc en plus, il faut parler sexualité avec son enfant. Et je trouve ça super dur, moi, de parler sexuel, alors de manière générale, mais pour un père de parler sexualité avec son fils, moi, je trouve ça super dur. Je suis presque ravi de ne pas avoir eu de fils, en fait, parce que j'aurais pas su faire ça.
Ah, il n'est pas en reste non plus avec sa fille aînée, 18 ans, en régulier chagrin d'amour. Enfin, là, le chagrin d'amour est tellement puissant qu'elle lui demande d'aller mettre un cierge à Notre-Dame de l'Espérance, je crois, quelque chose comme ça. Elle a identifié la fille qui lui a piqué son amoureux. Et alors, je pense qu'il faut vraiment lire. Pour moi, c'est un moment d'anthologie dans votre livre, mais François Morel pourrait nous servir.
D'accord.
Ce passage, page 87, c'est le dialogue entre un père et sa fille sur la façon dont il convient de traiter celle qui a piqué le goujat.
Il sort avec Lila. Je suis sûr qu'il sort avec Lila. Depuis qu'elle lui tourne autour, cette grosse pute, elle a fini par l'avoir.
Jade répète ça en boucle. Je lui demande qui est Lila, comme si c'était vraiment primordial. Elle me répond une grosse pute et je comprends que je n'aurai pas d'autres informations sur la personne en question. Et après tout, si ça la caractérise, pourquoi pas, je ferai avec une grosse pute, d'accord. Et j'évite de lui dire que selon ma théorie des prénoms à fleurs, on ne peut rien contre une fille qui s'appelle Lila, fût-elle la plus grosse des grosses putes. Elle me demande alors d'aller allumer un cierge pour que Lila meure. Cette requête me prend de court. Je reste un instant interloqué. Jade, on ne peut pas allumer un cierge pour que quelqu'un meure. Ce n'est pas le concept du cierge. Elle me lance un regard chargé tout à la fois de stupéfaction et de haine, semble soudain ressusciter, se ranimer et se met à m'invectiver de sa voix usée par les larmes. « Je croyais que tu étais prêt à tout pour moi, c'est ça ton rôle de père, c'est de te défiler dès que je te demande un service, je ne te demande jamais rien, putain !» Je tente de la calmer, je lui dis « D'accord, d'accord pour retourner à l'église, d'accord pour la prière, d'accord pour le cierge, mais pas pour qu'elle meure, ça je ne peux pas, trouvons un compromis. » Elle me fixe en silence comme une lionne évalue la distance entre le jeune gnou et elle, alors disons dans le coma. Non plus, pas dans le coma. S'ensuit alors une interminable négociation de marchand de tapis complètement surréaliste. Alors, handicapé, non plus, pas handicapé. Un peu blessé, tout au plus. Une blessure qui s'infecte, on doit l'amputer. Non, la blessure ne s'infecte pas, elle lui fait rater le lycée pendant 6 mois, et elle revient isolée, terne et déprimée. Personne ne veut même plus l'approcher parce qu'elle a une horrible cicatrice qui lui barre le visage. Non. Nous finissons par tomber d'accord sur Borgne.
Chloé Delhomme était morte de rire.
Oui, mais c'est très bien interprété. Déjà, c'est très drôle dans le texte, mais là, évidemment, nous avons affaire à quelque chose d'autre tenu.
Voilà. Donc voilà comment on se retrouve à 46 ans, presque 50, en train de mettre des cierges pour qu'une jeune fille de 18 ans qu'on n'a jamais rencontrée devienne Borgne.
Tout va bien.
Il y a des passages drôles, et puis il y a des passages d'une tendresse et d'une poésie infinie, page 155 par exemple. Et là, je pensais à vous, Hervé Le Tellier, à ce côté mathématicien raté, mais mathématicien tout de même, comme vous le disiez tout à l'heure. Finalement, ce livre, c'est peut-être aussi la réponse à la question que nous posent les enfants. Sert à quoi les maths? Les identités remarquables, par exemple, ça sert à quoi? On ne servira pas plus tard, hein, on est d'accord, des identités remarquables.
Ça se discute, mais on n'a pas le temps.
D'accord, très bien. Bon, réponse de Fabrice Caro, page 155. Tu veux que je te dise à quoi servent les identités remarquables? Elles sont là pour donner à un père l'occasion de parler à son fils. C'est beau, c'est tendre.
C'est beau, c'est joli.
Oui.
C'est un très beau titre, hein, les identités remarquables, en fait.
Prochain roman d'Hervé Le Tellier.
Oui, je garde le...
Oui.
Je te le vends.
Je le donne.
Bon, il y a quand même la question, comment gérer un tel dessin?
Oui, il ne sait pas trop quoi faire. Alors, il est censé en parler au fils, mais il n'y arrive pas. Mais bon, il fait quand même l'effort de prendre rendez-vous avec sa prof.
Oui.
Il se trouve que le texte du dessin, du chef-d'œuvre de son fils, donc le personnage féminin, dit « mets-la-moi ». Donc, il prend rendez-vous avec la prof d'anglais. Il a complètement oublié le nom de sa prof. Et pour lui, c'est « mets-la-moi ». Mais « mets-la-moi » écrit en tahitien, un petit peu.
« Mets-la-moi ».
« Mets-la-moi », voilà. Et dans sa tête, c'est « mets-la-moi ». Et dans sa remise en question d'un petit peu tout, il remet aussi en question sa vie sentimentale. Et il commence à avoir un petit faible pour cette prof, pour « mets-la-moi ».
Puisqu'on parle de dessin, je voudrais qu'on parle des vôtres, parce que les vôtres sont basés sur un principe aussi qui crée l'effet comique, ce principe de répétition des cases. Alors, comment travaillez-vous? Comment faites-vous? Est-ce que c'est ça qui génère le texte, qui crée le texte, ou est-ce qu'au contraire, vous savez où vous allez? On peut dire, hein, peut-être que vous avez un dessin que vous semblez répéter,
oui,
presque fixe, et puis tout à coup, ce sont les bulles qui changent et le texte.
Ouais, c'est un truc de fainéant. Non, c'est plus que... Bah, par exemple, au cinéma, moi, les choses qui me touchent, même dans la comédie d'ailleurs, j'aime pas les trucs super cut. Il y a une espèce de vague de comédie comme ça où il faut que ça aille très, très vite. Moi, ce qui me fait rire, c'est les longs plans séquences comme ça, très installés. Mmh. Et donc, j'ai repris le principe du plan séquence, en fait. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux, une image fixe, avec seulement une variation sur le texte, comme ça. On ne se focalise pas trop sur le dessin, mais tant mieux d'ailleurs, parce que je n'ai pas un dessin virtuose, mais on se focalise plus sur le texte. Ça, du coup, le dessin parasite pas trop, le gag parasite pas trop la narration. C'est ce que je cherchais, en fait, dans cette histoire de répétition.
Vous êtes nostalgique ou mélancolique ?
Ah, je suis un petit peu les deux, je crois. Enfin, ça dépend si nostalgie, c'est dire c'était mieux avant. Non, je ne suis pas du tout nostalgique, mais j'adore me souvenir du passé. J'adore.
Comme chez Chloé Delhomme, il y a un petit côté années 80 aussi.
Mais j'ai retrouvé un tas de références. Ouais, on a la même pop culture, je crois, mais j'ai retrouvé un tas de références.
Ouais. C'est générationnel aussi.
Est-ce qu'on passe sa vie à refaire le match, Fabrice Caro ?
Bah, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Il ne faut pas avoir de regrets, il ne faut pas avoir de remords, mais malgré tout. On peut pas s'empêcher. On peut pas s'empêcher de se dire, bah, si j'avais fait ça, si j'avais pris ce chemin, si. Ouais,
c'est votre regard aussi sur les autres qui est saisissant et en même temps tendre, jamais moqueur, mais glaçant. Par exemple, la caissière que l'on croise tous les jours. Mais vous savez, François, à 12 ans. En 1986, en réalité, elle voulait devenir danseuse. Après avoir vu Flashdance, elle avait mis des posters absolument partout. Puis elle dansait sur Maniac et sur deux, trois autres trucs. Elle a rencontré Pascal, qui avant de devenir caissier au Crédit Agricole, lui rêvait de devenir pilote de chasse après avoir vu Top Gun. Il a acheté les lunettes d'aviateur et le blouson de cuir, c'est déjà ça. C'est ça, votre univers, Fabrice Caro ?
Bah, ça me touche. Ouais, non, c'est pas de la moquerie, surtout pas. Moi, je déteste la moquerie, je supporte pas ça. Non, c'est... Moi, j'aime bien les failles, les gens qui ont raté, j'aime bien les échecs, c'est les choses qui me touchent. Et bah, c'est ça, il imagine la caissière. Mais c'est un petit peu le titre résume tout ça. Le Broadway, c'est... Moi, je voyais ça comme... C'est ça, c'est la différence entre ce qu'on avait rêvé et ce qui est. Enfin, ce qu'on avait projeté et le résultat final... Et c'est souvent à des années-lumière, comme ça. Mais c'est pas très grave. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça joli. C'est pas grave d'avoir raté. Tant qu'on vit avec ses rêves, enfin, on revient sur cette histoire de virtualité. Qu'on le vit dans la réalité ou pas, c'est pas très, très grave. Si on le vit dans ses rêves, moi, je trouve ça joli aussi.
La réalité, c'est ça. C'est aussi une comédie musicale qui pourrait être un petit peu ratée, un petit peu plagiée.
Il y avait l'idée de bande son, hein. La réalité, c'est quelque chose qu'on se construit et dans lequel il y a cette bande-son. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'effectivement, on passe un peu son temps à ne pas vouloir vraiment refaire le match, mais on regarde quand même le passé. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer tous les embranchements qui existent. Moi, je suis frappé de tout ce qui peut se passer en très peu de temps. Parfois, la vie peut basculer d'une seconde à l'autre, simplement pour une fraction d'inattention sur l'autoroute. Et d'un seul coup, on se réveille, on est dans un fauteuil roulant et les choses ont totalement changé. Donc, y a toujours cette possibilité qui s'ouvre devant nous, que le monde change. Et je comprends très bien cette idée de Broadway dans lequel, effectivement, on a rêvé à des choses et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'aime beaucoup ça. Je repensais à ce que François avait gentiment produit, qui était moi et François Mitterrand, qui est ce personnage qui, lui, avait construit un monde autour d'une relation fictive avec tous les présidents de la République, les uns après les autres, et dans lequel il y a cet espoir d'avoir une existence, alors qu'en fait, on passe à côté. Et je trouve ça beau, en fait, parce que on passe tous à côté de sa vie, enfin, d'une certaine manière. Il y a des millions d'opportunités qu'on ne saisit jamais. Le petit dieu grec du Kairos qui passe, et on n'a jamais le courage de tendre la main pour attraper ses cheveux roux. Et on ne peut pas tout le temps passer son temps à attraper les cheveux roux du Kairos qui passe, quoi. Je trouve ça beau.
En gros, tu ne la voyais pas comme ça, ta vie.
Ouais, c'est ça.
Voilà. La tâche caisse quand tu étais petit.
Voilà. Une chanson de François Morel qui est « Faut faire avec, faut faire avec ».
Tu rêves, moins connue que celle de
tu rêves de gondole à Venise. Tu rêves de gondole à Venise et ta mobilette à Berck. Faut faire avec, faut faire avec.
Bon, merci.
Et pour faire avec, on rajoute quoi ? Du loufoque, de la fantaisie, de l'humour ?
Ouais, c'est ce qui nous sauve, je crois. Du dérisoire, et puis...
Du dérisoire.
Du dérisoire. Je veux dire, bon, c'est pas très très grave, tout ça.
C'est la vie. Mm-hmm. Ça passera. Broadway, chez Gallimard, Fabrice Caro. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, tiens, on fera un petit peu d'histoire avec Montaigne et André Comte-Sponville, avec Georges Vigarello qui vous racontera l'histoire de la fatigue comme si c'était un roman, avec surtout Yannick Ripa qui fera Chloé Delhomme, c'est pour vous et c'est pour vous les hommes, l'histoire féminine de la France, remarquable ouvrage. Et puis Christophe Naudin, prof d'histoire, rescapé du Bataclan, qui nous donnera son journal. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur France.tv. Vous pouvez également l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de streaming. Oui, je fais un terme en français et puis l'autre en anglicisme, c'est comme ça. D'ici la semaine prochaine, il y a la petite librairie tous les jours. Et nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous brancher, répondre à la question qui va vous être posée dans un instant. Et repartir avec tous les livres de nos invités. Voilà, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, bonsoir. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.